Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La réforme de l'audiovisuel public, les vraies décisions, celles qui fâchent, n'ont pas été dévoilées ce matin par Françoise Nyssen. La ministre a préféré parler du contenu et axer sur la création du média global. Parmi les annonces tout de même, la chaîne France 4 qui va cesser d'émettre sur un canal hertzien. Nous verrons comment la réforme est vue notamment à France Télévisions avec Cécile de Kervas-Doué. Pas de miracle à attendre pour les salariés de Carrefour. La direction confirme la fermeture de plus de 240 magasins. Le groupe n'est jamais parvenu à redresser le réseau de distribution DIA qu'il avait acquis en 2014, explication d'Hugo Chesinski. Exit le label Monsanto, mais le Roundup, les semences OGM, le glyphosate vont continuer à être commercialisés. Seulement, le nom va changer avec la reprise du géant de l'agrochimie par Bayer. Vous entendrez la réaction d'un militant écologiste. À l'étranger, Donald Trump osera-t-il se gracier lui-même? Il menace de le faire, tout en assurant qu'il n'en aura pas besoin. Cette idée pour le moins étrange du président américain lui permettrait de balayer d'un coup de grâce l'enquête du procureur spécial Mueller. Nous serons en ligne à Washington avec Grégory Philips. Et puis en Jordanie, le Premier ministre démissionne, un successeur est déjà nommé, le roi Abdallah voulait aller très vite. Le président Macron avait parlé de honte de la République, mais il n'y a pas de constat d'échec, a tempéré Françoise Nyssen ce matin en ouvrant le chantier de la réforme de l'audiovisuel public. La ministre de la Culture a cependant pointé un constat d'insuffisance, une absence de prise de risque également. Il faut donc transformer ce secteur qui emploie 17 000 personnes, mais pour l'instant pas question de chiffrer les économies à venir, il y en aura forcément, a dit Madame Nyssen, ni de modifier la gouvernance, ce sera l'objet d'une vaste refonte annoncée en 2019. Aujourd'hui, la priorité était de parler des contenus. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Vous étiez ce matin donc chez Françoise Nyssen, vous rentrez de France Télévisions. Si on résume les annonces du jour, il y a d'abord la disparition, je l'ai dit en titre, d'une chaîne de télé France 4 qui va migrer vers le web. Également, le rapprochement entre les radios locales de Radio France et France 3. France 3 qui va devoir tripler ses programmes régionaux. Et puis, l'accent mis sur le numérique avec le développement de plusieurs plateformes pour alimenter, Cécile, le média global.
Oui, un média global qui rend furieux, absolument furieux et presque honteux même d'une réforme annoncée, qualifiée de non-réforme, de grand méchant flou ou d'incohérence. Il n'y a pas de mot assez fort hein, dans les couloirs du siège de France Télévisions cet après-midi, siège qui emploie 4000 personnes. L'amertume est palpable vis-à-vis du gouvernement d'abord, comme l'explique le syndicat majoritaire de l'entreprise, la CGT et son secrétaire général Marc Chauvelot, pour qui tout est dans ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire les chiffres.
On a peur d'un effet qui se coule, que dans un premier temps, donc, on nous annonce une version un peu light comme ça sur des projets. Ça cache la contribution de l'audiovisuel public au grand plan d'économie voulu par M. Macron et M. Philippe sur l'action publique quand on sera arrivé à l'étiage voulu, qui est probablement déjà estimé quelque part du côté de Bercy. On aura moins les 200, 300, 400, 500 millions. C'est un plan d'économie qui s'avance sans être dévoilé de manière claire.
Alors pour les syndicats de France Télévisions, il est clair que l'annonce des projets et des contenus par la ministre de la Culture n'est qu'un avant-goût d'un Big Bang économique qui sera par la suite annoncé sans doute par Matignon. Un Big Bang économique très dangereux pour les contenus mais aussi pour l'ensemble du service public et pour le public, considère Serge Simineau, journaliste politique et délégué syndical du SNJ France Télévisions.
C'est d'une certaine manière une reprise en main d'un pouvoir politique sur l'ensemble de ce qu'est l'audiovisuel public. C'est aussi du marketing, puisque aujourd'hui on parle des contenus, demain on parlera des économies. Ça c'est marketé, pour ne pas choquer tout de suite en disant « Regardez, ces gens-là sont rétifs au changement, on leur annonce des nouveaux contenus, et puis ils vont nous parler d'argent ». Enfin, je suis désolé, le problème du financement de l'audiovisuel public, ça fait 10 ans que notre financement est en débat sans être réglé. Donc ça veut dire quoi? Vous devez faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Donc ça, c'est quand même aussi un moyen de reprendre en main un audiovisuel public.
Et là-dessus, ça n'a pas échappé aux syndicats, par exemple, que la ministre a proposé de mettre dans la balance le sort de France Ô en demandant directement l'avis des élus d'outre-mer. Mais tout de même, ça ne doit pas empêcher les débats à l'intérieur sur la qualité des contenus et surtout sur l'organigramme, considère pour sa part Jean-Jacques Cornival de la CGC.
Depuis toutes ces années, on a recruté du gras à donner des salaires faramineux à des gens qui ont des titres ronflants et qui souvent n'ont même plus d'activité. Et puis à côté de ça, on dit systématiquement, on réduit les coûts. Mais on tape sur qui? On tape sur les petits, les gens qui sont sur le terrain et qui bossent encore. On vient vous parler de plus d'heures de proximité. Mais ça fait des années qu'on dit ça, il n'y a plus aucune production, par exemple dans les régions avec France 3. Entre autres parce qu'il n'y a plus de sous, mais de toute façon parce qu'on a tout filé à l'extérieur. Les émissions arrivent clé en main et vous avez de plus en plus de gens qui se font de l'argent sur le dos du service public. Tout un tas de producteurs, mais qui sont des producteurs copains.
Alors pour permettre une meilleure concertation au sein des entreprises entre notamment les salariés, les syndicats et la direction, la ministre Françoise Nyssen vient de créer une commission d'experts qui doit rendre son premier rapport à la mi-juillet.
Merci Cécile de Carvaz-Doué. Le parquet national financier dira, au terme de l'enquête qu'il vient d'ouvrir, si Alexis Kohler, chevrie ouvrière de l'Elysée, répondra ou non devant la justice de ses liens avec le géant du transport maritime MSC. Ce très proche d'Emmanuel Macron, qui a été notamment son directeur de cabinet à Bercy, connaît très bien l'armateur italo-suisse MSC, sa maman, sa mère et la cousine germaine de la cofondatrice italienne de cette compagnie. Lui-même y a exercé des fonctions importantes en 2016 avant de rejoindre le président Macron à l'Elysée. Or, MSC est le principal client des chantiers navals de Saint-Nazaire, dossier qu'a forcément eu à traiter Alexis Kohler. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Alors, l'association Anticor a déposé une plainte vendredi dernier, plainte dont s'est saisi le parquet financier. Il y est question d'un soupçon de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence. Cela dit, l'Élysée se montre confiant et Alexis Kohler rappelle qu'il a toujours signalé à sa hiérarchie ses liens familiaux avec l'armateur MSC.
Effectivement, l'Élysée qui rejette des soupçons, je cite, totalement infondés, jetés sur Alexis Kohler en raison de ses fonctions. Selon la présidente de la République, cette plainte de l'association Anticor s'appuie, je cite, sur des articles de presse de Mediapart qui contiennent de nombreuses et graves erreurs factuelles. L'Élysée précise qu'Alexis Kohler s'est systématiquement déporté des décisions en rapport avec MSC. Sa hiérarchie informée a naturellement veillé aux conflits d'intérêts potentiels. Sauf que pour Anticor, Alexis Kohler n'aurait pas dû siéger comme représentant de l'État au conseil d'administration de STX France à partir de 2010. Il ne pouvait ignorer le conflit d'intérêts car MSC, principal client de STX France, a été fondé et dirigé, vous l'avez dit, par les cousins de sa mère. Alexis Kohler, de son côté, reste, comme à son habitude, invisible dans les médias. Il n'a pas commenté publiquement la plainte d'Anticor comme il n'a pas commenté non plus les articles de Mediapart le mettant en cause. Mais l'Élysée a assuré qu'il communiquerait bien volontiers au parquet l'ensemble des documents qui, je cite, prouvent sa conduite respectueuse du droit dans toutes les circonstances de son parcours professionnel.
Merci Antoine Marette. Chronique d'une fermeture annoncée, la direction de Carrefour a confirmé au syndicat ce matin que 29 magasins seulement sur 273 ont trouvé des repreneurs. Tous les autres vont mettre la clé sous la porte. 1800 salariés sont dans l'incertitude. Bonsoir Hugo Chesinski.
Bonsoir.
Le géant de la distribution avait repris le réseau des magasins Dia il y a 4 ans et c'est visiblement un échec.
Comme tous les géants de la grande distribution qui ont petit à petit orienté leur stratégie vers la création de commerces de proximité, Carrefour, en 2014, rachète 373 magasins Adia, le leader du hard discount transformé dans les centres-villes en Carrefour Market, Contact ou Contact Marché, une stratégie qui a pourtant échoué, nous explique Franck Mérouz, secrétaire de l'Union locale de la CGT de Caen.
Carrefour fonctionne sur un modèle unique de magasins, c'est-à-dire par exemple les Carrefour Contact, et quelle que soit la typologie du lieu ou la catégorie socio-professionnelle de la clientèle, ce modèle va être copié à 100, 200 ou 300 exemplaires.
Une deuxième erreur stratégique chez Carrefour, les prix. Car Carrefour vendait ses marchandises 3 à 5% plus cher que ce que proposaient ses concurrents. Les clients désarçonnés ont donc délaissé ces anciens DIA et se sont tournés vers d'autres enseignes mieux positionnées. Le déficit s'est creusé et oscille aujourd'hui entre 150 et 200 millions d'euros pour ne parler que des Carrefour de proximité. En 2017, Alexandre Bompard arrive à la tête du groupe et décide de fermer ses magasins. Et ce sont donc près, vous l'avez dit Tara, de 1800 salariés qui vont être laissés sur le carreau. La CFDT s'inquiète pour le reclassement des salariés dans le groupe quand Franck Mérouz de la CGT n'y croit tout simplement pas et n'y croit pas dans ses promesses de la direction.
C'est effectivement une annonce qui est faite pour rassurer l'opinion publique, c'est-à-dire la clientèle, sur des mesures que met en place Carrefour, mais qu'en fin de compte, c'est qu'une annonce médiatique et qu'à terme, j'aimerais bien savoir combien effectivement de salariés Carrefour Proxy vont réellement pouvoir bénéficier d'avoir un retour à l'emploi.
Pour l'instant, ce ne sont que 195 salariés qui garderont officiellement leur travail dans les magasins qui ont été rachetés. Les 2000 autres seront fixés sur leur sort lors du comité central d'entreprise qui se déroule en ce moment même.
Merci Hugo Chesinski. En bref, l'État est ouvert à un rapprochement entre Accor Hôtel et Air France KLM. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie a souligné que des discussions devaient se mener entre les deux entreprises et que l'exécutif se montrerait intéressé Si le projet industriel tenait la route, fermez les guillemets, le groupe Accor a proposé hier une reprise de toute ou partie des 14% du capital d'Air France, 14% qui sont détenus par l'État. En bref, encore au chapitre politique, La République En Marche pourrait soutenir des listes menées par les Républicains lors des municipales en 2020. Petite phrase de Christophe Castaner qui ajoute qu'il sera aussi possible de soutenir des gens issus du Parti Socialiste. Avant les municipales, il y aura les européennes dans un an pile et le Parti communiste est déjà en campagne. Après avoir nommé Yann Brossa, 38 ans, adjoint au logement à la mairie de Paris, chef de file pour mener la liste du PCF, c'était hier. Et bien ce matin, lors d'une conférence de presse, Pierre Laurent, le secrétaire national du parti, qui refuse d'ailleurs de parler de tête de liste, a donné rendez-vous aux forces de gauche. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Rendez-vous pour le 2 juillet prochain à Paris afin de composer cette liste.
Oui, ce sera une liste composée par un chef de file plutôt qu'une tête de liste. Pierre Laurent insiste sur ce point, mais le choix de Yann Brossa est avant tout un moyen de changer l'image du parti en mettant en avant un membre de la direction, élu de 38 ans, élu de terrain aussi.
C'est un jeune élu qui a montré sa capacité à allier une posture offensive sur les engagements pris et puis une capacité à les mettre en œuvre concrètement. En plus, je crois qu'il incarne à sa manière le renouveau communiste.
Une manière aussi de donner des gages aux responsables du parti. Parmi eux, de nombreux trentenaires qui s'impatientent face à la trop lente mutation du PCF. Ils l'ont fait savoir dans une tribune en février dernier. Ce n'est pas pour cette raison, répond Pierre Laurent, qui refuse également de porter la responsabilité d'une division de la gauche aux prochaines élections européennes.
Non, les communistes nomment leur chef de file. Celui qui, dans cette démarche, portera la voix des communistes, organisera pour nous cette démarche. Mais nous ne faisons de la personnalité d'Yann Brossa aucun préalable. D'ailleurs, nous voulons une discussion qui se mène sans préalable, à partir des attentes des uns et des autres. Il sera de toute façon, Yann Brossa, puisque nous l'avons décidé, le premier des communistes sur cette liste. Si cette liste rassemble d'autres forces, l'ordonnancement et la construction de cette liste sera discutée avec toutes les forces, c'est bien normal.
Pierre Laurent souhaite donc réunir des personnalités de gauche le 2 juillet prochain à Paris. Le Conseil national du PCF soumettra ensuite à l'automne une proposition de liste au vote des adhérents. Alors que de son côté, la France Insoumise devrait publier une première partie de sa liste demain avant le vote sur sa plateforme.
Merci Sophie Delpont. C'est un nom qui hérisse beaucoup de défenseurs de l'environnement et qui inquiète aussi nombre de consommateurs. Or, il pourrait tout simplement disparaître. Monsanto, le géant de l'agrochimie, est en passe d'être racheté par Bayer et il devrait voir son patronyme bientôt effacé. La firme allemande qui va reprendre la multinationale américaine souhaite se débarrasser du nom Monsanto qui a si mauvaise presse. Véronique Reberotte a joint Arnaud Apothécaire. Il dirige l'association Justice Pesticides et il voit deux raisons à ce tour de passe-passe.
Monsanto a une très mauvaise image de marque en Europe et dans le monde entier maintenant, en particulier à cause de son herbicide, le glyphosate, de ses OGM que Monsanto a essayé d'imposer de façon répétée en Europe. Et Bayer, de façon paradoxale, n'a pas la même mauvaise image de marque, même si pourtant il vend des produits tout aussi dangereux. Donc je crois qu'effectivement, c'est de se donner une image plus propre que celle qui est véhiculée par le nom de Monsanto. Mais l'autre aspect qui est sans doute pas étranger à ce nettoyage linguistique, si je peux dire, c'est véritablement de chercher à éviter les poursuites judiciaires qui sont actuellement lancées contre Monsanto et sans doute d'éviter les condamnations qui pourraient se révéler extrêmement chères. Des milliers d'agriculteurs américains qui portent plainte contre Monsanto parce qu'ils sont atteints de lymphome non-Hodgkinien ou dans le monde entier les nombreux procès qui sont contre Monsanto. Malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait. On l'a vu par exemple avec les suites de l'accident lié aussi à des insecticides à Bhopal où des milliers de personnes sont mortes ou ont été malades. Eh bien, il est devenu extrêmement difficile de faire payer les compagnies qui ont acheté à l'époque Union Carbide et qui maintenant sont très loin de ces histoires.
Arnaud Apotheker, l'organisateur en 2016 d'un tribunal citoyen Monsanto. Il répondait à Véronique Rebérotte. Lui aussi aimerait effacer, sans doute purement et simplement, l'enquête qui lui colle à la peau. Donald Trump, dont le mandat est empoisonné aux États-Unis par les investigations du procureur spécial Robert Mueller autour d'une possible ingérence russe pendant sa campagne électorale. Donald Trump donc envisage sérieusement de se gracier lui-même. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Tara.
Vous êtes en direct de Washington où les juristes retournent cette question dans tous les sens depuis plusieurs heures. Le président Trump peut-il s'auto-accorder, si j'ose dire, une grâce présidentielle ?
Oui, vous avez raison, la question est posée comme ça et elle est posée par Donald Trump lui-même. En fait, tout a commencé ce week-end avec le New York Times qui a dévoilé un mémo d'une vingtaine de pages rédigé par les avocats du président et envoyé début janvier au bureau du procureur Mueller. Dans cette note, que disent ces avocats ? Eh bien que s'il le souhaite, le président peut mettre un terme à cette enquête et même exercer dans ce dossier son droit de grâce. Eh bien c'est exactement le même argument que Trump développe ce soir. Une nouvelle fois, il dénonce la chasse aux sorcières dont il est, dit-il, victime de la part du procureur Robert Mueller, et il écrit qu'il a le droit absolu de s'accorder à lui-même la grâce présidentielle, comme il l'a fait la semaine passée pour plusieurs personnalités, dont le polémiste conservateur Dinesh D'Souza. Mais pourquoi le ferais-je alors que je n'ai rien à me reprocher, poursuit Trump, qui affirme que l'enquête du procureur est, je cite, anticonstitutionnelle. Alors il y a deux choses à noter ce soir. D'abord, vous l'avez dit, il y a maintenant un débat ici aux États-Unis entre juristes pour savoir si effectivement le président peut s'auto-gracier. Puis ensuite, il est très clair que ces nouveaux tweets mettent encore un peu plus de pression sur le procureur spécial, qui sait qu'à tout moment, Trump peut être tenté de le dessaisir. En fait, il ne peut pas le dessaisir directement, mais exiger du numéro 2 du département de la justice qu'il le fasse. Un peu comme Nixon l'avait fait dans l'affaire du Watergate, mais ça ne lui avait pas réussi. Et ça, Trump et ses avocats en sont bien conscients.
Merci beaucoup Grégory Phillips, en direct de Washington. En Jordanie, la démission du Premier ministre, la contestation grondait depuis mercredi. Grande manifestation hier encore devant le siège du gouvernement à Amman. Gouvernement qui menait une politique jugée trop austère, augmentation de la TVA, hausse du prix de l'électricité entre autres. Le roi Abdallah de Jordanie n'a donc pas tergiversé à Amman. Jérôme Borouzewski.
Il fallait aller vite pour faire taire les critiques. Le roi lui-même faisait l'objet de reproches. Des manifestants regrettaient qu'il ne se soit pas placé plus franchement du côté de ceux qui souffrent de l'inflation. Il fallait aussi aller vite car le pouvoir veut éviter que la crise sociale ne se transforme en une crise politique majeure et qu'elle ne déstabilise le pays. Or, il y a danger. Tous les ingrédients d'un soulèvement plus important sont réunis en Jordanie. Il y a tout d'abord une défiance généralisée à l'égard de la classe politique. Les élites sont accusées de corruption. La population a le sentiment qu'un énorme fossé la sépare des dirigeants. Il y a ensuite en Jordanie une crise de la représentation. Il y a enfin un fort sentiment d'injustice au sein de la population, sentiment renforcé par les augmentations répétitives des taxes. Mais la démission de Hani Mulki ne règle pas tout. Les manifestants aspirent à un changement de système, pas simplement à un changement de personne. Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, la nomination du nouveau Premier ministre suscite déjà des témoignages amers. Il s'appelle Omar Razaz, il fait partie de l'équipe sortante, il était ministre de l'Éducation, il a travaillé à la Banque mondiale. Cette expérience n'est pas forcément un atout en termes d'image, car ces derniers jours, les manifestants s'opposaient aux réformes fiscales qui, justement, avaient été négociées avec les institutions financières internationales.
Jérôme Borouzewski à Amman et puis à Madagascar, un nouveau Premier ministre de consensus vient d'être nommé là aussi dans cette île de l'océan Indien où plus de 90% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. En bref, Benjamin Netanyahou est arrivé à Berlin, début d'une tournée en Europe. Il rencontre Angela Merkel pour discuter notamment de l'Iran, du danger que représente pour Israël cet État chiite au Proche-Orient. Et puis le même sujet sera au menu des discussions entre le Premier ministre israélien et Emmanuel Macron demain. Et puisqu'on parle nucléaire, sachez que Vladimir Poutine invite officiellement le Nord-Coréen Kim Jong-un à Vladivostok, rendez-vous proposé pour le mois de septembre prochain. La justice russe vient de condamner le journaliste Roman Sushchenko à 12 ans de réclusion dans un camp. Il a été reconnu coupable d'espionnage, des faits qu'il nie fermement. L'Ukraine, dont est originaire le journaliste, dénonce un énième prisonnier politique sur place à Kiev, Sébastien Gobert.
Le cynisme sans précédent du tribunal russe prouve que le régime du Kremlin ne reculera devant rien pour tenter d'anéantir l'âme de l'Ukraine. Dès l'annonce du verdict à Moscou, le président Petro Poroshenko à Kiev s'en est pris à Twitter pour exprimer son indignation. Il est en cela suivi par la majorité des Ukrainiens, tant la peine de Roman Souchenko paraît injustifiée. Il était correspondant de l'agence Ukrinform à Paris, et c'est pendant un voyage privé à Moscou qu'il a été arrêté. Les interrogatoires et audiences ont été tenus au secret, malgré les protestations de défenseurs des droits de l'homme. Les éventuelles preuves établissant que Roman Souchenko est un espion restent donc un mystère. Alina Kohinage du groupe des droits de l'homme de Kharkiv dénonce une machination qui s'inscrit dans la lignée de deux autres procès d'Ukrainiens pour espionnage en Russie. En tout, on compte plus de 70 prisonniers politiques et prisonniers de guerre ukrainiens en Russie. Le plus célèbre, le réalisateur Oleg Sentsov, en est à son 22e jour d'une grève de la faim. Ces prisonniers comptent parmi les victimes de la guerre hybride que se livrent la Russie et l'Ukraine depuis 2014. Plusieurs organisations internationales réclament leur libération et des négociations sont en cours pour certains. Mais il semble que malgré ses efforts, Roman Souchenko ne puisse échapper à la colonie pénitentiaire.
Sébastien Gobert à Kiev, un tout petit mot du prix du livre Inter décerné aujourd'hui au romancier David Lopez pour donc son roman Fief publié aux éditions du Seuil. Et puis la météo, toujours beaucoup d'orages annoncés demain, seul le nord de la France sera épargné, il pourrait y avoir de la grêle, notamment du côté du Massif central. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.